Bien.
Attendez.
On est sur la glace.
C'est un piège.
Retirez-vous.
Je ne suis pas fait comme les autres hommes. Mais ceux au pouvoir ne me voient que comme un guerrier, ne pouvant prétendre à aucune charge. Mais je marche dans les pas d'Alexandre le Grand et de César.
Quel est votre nom ?
Napoléon.
Le cours de ma vie vient-il de changer ? Napoléon.
À l'occasion de la sortie en salle du film de Ridley Scott et des débats entre historiens compétents qui s'animent, il fallait bien qu'une émission respectueuse et honnête cherche enfin à rétablir certaines vérités. Bonjour et bienvenue dans cette 9e visite de la saison 7 du Panthéon des Cousus sur Radio Alpa 107.3 au Mans et radioalpa.com partout ailleurs. Alors oui, chez Bonaparte, il y a sans doute du bon. 28 minutes, magazine d'Arte, le 5 mai 2021.
Pour ses partisans, Napoléon est avant tout le bâtisseur de l'État moderne. Le Conseil d'État, la Cour des comptes, les préfets, les lycées ou encore le baccalauréat, c'est lui.
Mais pas que du bon, nous le verrons. Pour l'instant, rappel des bases avec Thierry Lenz, historien de Napoléonica, la chaîne YouTube de la Fondation Napoléon.
Napoléon est né le 15 août 1769 à Ajaccio, en Corse. Il est le fils de Charles et Laetitia Bonaparte. Charles était avocat, petit noble de Corse, et il a voulu pour son fils les meilleures études possibles en le destinant au métier des armes. Napoléon passe donc sur le continent, suit des études dans deux écoles royales militaires et en sort comme lieutenant d'artillerie.
Élève paraît-il bagarreur, il étudie beaucoup et...
On sait qu'il a été un immense lecteur, Rousseau, Voltaire, l'encyclopédie de Diderot, mais aussi des ouvrages d'économie, des ouvrages de droit et bien sûr des ouvrages de sciences militaires. Ce qui fait qu'on a un homme complet qui va savoir profiter de la Révolution française pour développer sa carrière.
Extrait d'une vidéo d'OCI Musique, l'histoire en musique.
Lorsque la Révolution éclate en 1789, le lieutenant Napoléon a 19 ans. En 1793, la famille Bonaparte s'installe à Marseille alors que la ville de Toulon se livre aux troupes britanniques et espagnoles. Napoléon soumet un plan d'attaque. Ses ordres contribuent à forcer la flotte britannique à quitter la rade de Toulon et il est fait général de brigade.
Imaginons que Napoléon rencontre Bonaparte.
Attendez, vous n'étiez pas à Toulon en 89, 90, par là ?
93 ?
Non, c'est pas ça.
Je siégeais, j'étais en rade. On s'était radiné avec des copines, il avait...
Oh, attendez, laissez-moi vous regarder. Vous ne seriez pas corse ?
Si.
Si ?
Ajaccio.
Ah, bah j'ai de la famille là-bas, moi.
Mais alors, vous connaissez les Tino Rossi ?
Oui, les Moreau.
Les Giaperi.
Les Lucchesi, tout ça.
Et maman, ça va ?
Ça va, et Lucien ?
Ça pousse.
Lucien, c'est le jeune frère de Napoléon. Il aura son importance un peu plus tard. En attendant, Bonaparte gagne ses galons de général en Italie, où il aurait posé les bases de l'unification du pays, puis en Égypte, où les missions scientifiques sont considérables. Retrouvons Roger Pierre et Jean-Marc Thibault en 58.
Dites-moi, vous voyagez en ce moment ?
Je viens de faire l'Égypte.
Vous êtes allé au Sphinx d'abord. On rigole.
Sacré chameau, hein ?
Eh ben dites donc.
Dans l'Égypte.
Oh ! À propos d'Égypte, j'ai lu dans les potins de la Gomère que vous auriez dit du haut de ces...
J'ai rien dit.
Attendez, du haut de ces... Ah, ces machins pointus, là. Ah, pyramides.
Ah, les volumes coniques à base polygonale.
Ah bon, vous appelez ça comme ça?
À base polygonale.
Ah bon, et pas du haut de ces...
À base polygonale.
C'est ça, oui, 40 siècles vous contemple.
J'ai jamais dit ça. Non, j'ai jamais dit ça. On chantait « Monte là-dessus, tu verras mon martre », mais j'ai jamais dit ça.
Mais alors, dites-moi, ce serait des inventions de journalistes.
Qu'est-ce qu'ils vont pas chercher, vous savez?
Vous savez qu'ils inventent.
Oui, mais il ferait du tort au monde.
Ah oui, déjà qu'on n'a pas eu de saison.
On a eu un été pourri,
mais oui. On en entend des fois à la radio, vous savez.
C'est quelque chose.
Ils causent pour ne rien dire. Je voudrais pas citer des noms.
Après la terreur, le nouveau régime politique, le directoire, montre vite ses limites en étant constamment bloqué. Un révolutionnaire qui connaît bien les rouages imagine la seule solution pour débloquer la situation. De fait, il offrira à Bonaparte d'accéder au pouvoir.
Emmanuel Sieyès, un personnage considérable de la Révolution, c'est lui qui a écrit en 1789 « Qu'est-ce que le tiers-état ? Rien. Que veut-il devenir ? Tout. » Emmanuel Sieyès avait traversé la Révolution en se faisant un petit peu oublier, mais il était considéré par les révolutionnaires comme l'homme qui saurait réformer la Constitution. Le problème, c'est qu'il faudrait 10 ans pour la réviser. C'est pourquoi Sieyès imagina une sorte de coup d'État qui forcerait les deux chambres du directoire, le Conseil des Anciens et le Conseil des 500, pour faire pression sur les chambres. Il avait besoin d'un général pour commander la garnison de Paris. On apprit, au début du mois d'octobre 1799, qu'avait débarqué sur les côtes de Provence le général Bonaparte qui rentrait d'Égypte. Le général Moreau, qui était à ce moment-là dans le cabinet de Sieyès, se tourna vers lui et lui dit « Voici votre homme, il fera votre coup bien mieux que moi. »
Le temps de remonter sur Paris, d'organiser la rencontre Bonaparte-Sieyès.
Première étape, le 18 Brumaire en 8, c'est-à-dire le 9 novembre 1799, on annonce aux députés qu'il y a un complot jacobin dans Paris contre la République. Les jacobins, à cette époque-là, ne sont pas très très populaires, puisque ce sont eux qui ont conduit la terreur en 1793 et 1794. Et puisqu'il y a un danger jacobin, eh bien il faut que les chambres sortent de Paris pour pouvoir se réunir de façon tout à fait libre. Et puis, pour protéger les chambres qui vont être en dehors de Paris, il faut des troupes. Mais pour commander ces troupes, il faut un homme de confiance et on propose que le général Bonaparte soit nommé commandant de la garnison de Paris. Donc au soir du 18 Brumaire, tout est en place, mais le coup d'État n'a pas eu lieu. Il va en réalité se passer le lendemain, le 19 Brumaire de l'an 8, c'est-à-dire le 10 novembre 1799. C'est au château de Saint-Cloud que les chambres ont décidé de se réunir. Sieyès est un homme qui connaît la lenteur des chambres, donc il se montre extrêmement patient. Le général Bonaparte, en revanche, lui, il a plutôt l'habitude d'être obéi, de donner des ordres et qu'on fasse ce qu'il a demandé. Et c'est Bonaparte qui va perdre son sang-froid dans cette journée du 19 Brumaire, une première fois en allant au Conseil des Anciens, qui est donc la chambre haute, comme on dirait l'équivalent du Sénat d'aujourd'hui, pour les haranguer. Ils sont tous plus ou moins complices du coup d'État, ça se passe plutôt bien. Mais ensuite, il se dirige vers le Conseil des 500, où là, il y a pas mal d'opposants au coup d'État, il y a encore quelques jacobins. Il envisage, là aussi, de voter d'urgence. Ce Conseil des 500, par un hasard qui n'en est pas tout à fait un, est présidé à ce moment-là par le propre frère de Napoléon, Lucien Bonaparte. Au moment où son frère entre, les députés entrent en fureur, on le bouscule, lui-même perd un peu son sang-froid, et il faut que des soldats viennent le sortir. À ce moment-là, Lucien Bonaparte, pour gagner du temps, pour que la Chambre n'ait plus de président, donne sa démission et sort sur le parvis du château de Saint-Cloud. Napoléon a repris un petit peu ses esprits. Lucien va avoir à ce moment-là 3 ou 4 minutes de gloire, puisqu'il va lui-même dire aux soldats « On a essayé de tuer votre général, il défend la liberté, je jure de percer le sein de mon propre frère si jamais il attente à la liberté des Français. » La troupe crie « Vive le général Bonaparte !»
Je vous passe des péripéties.
Dans la nuit du 19 au 20 Brumaire, les deux chambres, Conseil des Anciens et ce qui reste du Conseil des 500, votent un décret, c'est le décret du 20 Brumaire en 8, 11 novembre 1799, qui décide « Il n'y a plus de directoire, le pouvoir exécutif est confié à 3 consuls, Napoléon Bonaparte, Emmanuel Sieyès et Roger Ducos. »
Tombés dans l'oubli, les chambres sont dissoutes, réfléchissent à une nouvelle constitution et aux bases du code civil. Après ce coup d'État, autre point noir, l'esclavage. Il faut nuancer, l'abolition ne concernait pas toutes les colonies. Écoutons ce que nous dit Thierry Lenz.
Lorsque Napoléon est arrivé au pouvoir, il a été entouré d'hommes d'affaires, d'anciens fonctionnaires des colonies, qui immédiatement l'ont poussé à revenir sur la décision d'abolition de l'esclavage de 1794. Bonaparte leur répondait invariablement « Nous ne devons pas retirer la liberté à des hommes à qui nous l'avons donnée. » Alors, pourquoi rétablit-il l'esclavage en 1802 ? Au départ, c'est une affaire d'ordre public et de géopolitique. Géopolitique parce que les Français veulent récupérer leurs colonies, y reprendre pied et surtout Il relançait l'activité d'agriculture coloniale, principalement la canne à sucre. Deuxième raison, ordre public, avec d'immenses guillemets, Napoléon souhaite que les pouvoirs noirs qui se sont installés dans ces colonies rentrent dans le rang et redonnent le pouvoir politique et administratif aux administrateurs venus de la métropole. Au départ, d'ailleurs, les choses sont à peu près rentrées dans l'ordre, et notamment à Saint-Domingue, où le général Jean-Dominique Toussaint Louverture, qui était un général noir de la Révolution française, a accepté de remettre le pouvoir aux métropolitains qui étaient venus, tout en gardant lui d'importantes fonctions.
Mais les émeutes se poursuivent, alors Bonaparte envoie son beau-frère mater les révoltes. La Martinique et la Guadeloupe rentrent, pour ainsi dire, dans le rang, mais les Français sont battus sèchement par Toussaint Louverture à Saint-Domingue, qui devient Haïti et indépendant.
Mais alors, est-ce que c'est pas gênant aujourd'hui de commémorer quelqu'un qui a rétabli l'esclavage ?
Oui, mais bon, faut pas oublier d'où venait sa femme.
Donc il n'était pas raciste ?
Bah non, la preuve.
Ah bah, et ouais, Joséphine de Beauharnais venait de la Martinique. Alors c'était une famille de béquets, voilà, de blancs, un descendant de colons. Mais bon, de la Martinique quand même, hein, on va pas chipoter. Et puis, bon, bah, le mieux, c'est quand même de laisser croire aux gens ce qu'ils veulent. Comme dirait Napoléon, on gouverne mieux les hommes par leurs vices que par leurs vertus.
Après Guillaume Meurice, sur France Inter, le 13 avril dernier, l'historienne Françoise Vergès, dans 28 minutes, ce 5 mai dernier.
Quand on parle de rétablissement de l'esclavage des Noirs, ou on parle du code civil, c'était quand même pour les personnes blanches. Il n'a pas été appliqué aux personnes noires dans les colonies. Il ne faut pas oublier même des personnes de couleur. Libre, je veux dire. Ensuite, il y a aussi des lois qui sont prises en France, qui ne sont pas dans les colonies, c'est-à-dire l'interdiction des mariages entre les Blancs et les Noirs, qui avait été abolie par la Révolution et rétablie, la police des Noirs. Il y a quand même quelque chose que la Révolution française avait ouvert. La question, c'est que ce qui avait été ouvert a quand même été sérieusement refermé, et notamment autour des femmes.
J'ai réellement aimé Joséphine, mais je ne l'estimais pas. Elle était trop menteuse. Mais elle avait un je ne sais quoi qui plaisait. C'était une vraie femme. Elle avait le plus joli petit cul qui fut possible.
Esprit des Lumières, es-tu là ? Daniel Mesguich a lu sur scène les mémoires d'un Napoléon misogyne. Françoise Vergès.
Qu'on peut lui faire ce procès-là vis-à-vis des femmes ?
Bien sûr qu'on peut lui faire le procès. Quand on dit qu'il est un homme de son temps, oui, il est le temps patriarcal. Je veux dire, à un moment donné, il est au pouvoir, il prend... des décisions.
Il inscrit dans la loi, il inscrit
ses Il inscrit dans la loi. Il y a des choses du code civil qui ne changent que dans les années 60, 70, très tardivement. Ouais. Ça ferme, avec son code civil, il ferme quelque chose. On sait bien que pour les femmes en France, ça a été très long, et c'est pas encore gagné de toute façon, mais ça a été très long.
Un trône, c'est quoi ? Une simple planche, un doux bout de bois, quoi qu'un beau. Au dimanche, manche, on habillera de pourpre et d'or, et ça va de soi, d'or et de soie. Un trône, c'est quoi ? Un beau bout de planche, un beau bout de bois, un arbre sans branche autour duquel dansent les rois, les écus d'or et les ducats. Un trône, c'est quoi ? Un beau bout de planche, un beau bout de bois, quelques robes blanches qu'un peintre rendra immortel d'un coup de pinceau solennel. Un trône, c'est quoi ? Un beau bout de planche, un beau bout de bois qui donne en revanche manche un privilège, un passe-droit pour dire merde aux autres rois. Un trône, c'est quoi ? Une simple planche, un beau.
Immense succès de Serge Lamand, 82, sa comédie musicale autour de Napoléon rappelait aussi le fameux autosacre de Napoléon. Un empereur qui, dans ses mémoires, ose écrire ceci. Daniel Mesquich.
Ma qualité d'Italien a sûrement contribué à déterminer le pape à me couronner. Qui sait jusqu'à quel point il était flatté de voir une famille qui avait toujours joué un rôle à Rome, qui, depuis un temps immémorial, avait eu quelques Monseigneur Bonaparte à son service, placé sur le premier trône de l'Europe et lui donner des lois.
Napo Mégalo. Et à peine l'empereur à Sainte-Hélène, il paraît que les asiles recensaient déjà les mythos et les schizos. Il en est un particulier. Depuis 1921, le cinéaste Abel Gance prépare une série de films sur Napoléon. En 25 commence enfin le tournage, les essais sont peu concluants jusqu'à ce que...
Et d'un autre comédien, Albert Dieudonné, qui a déjà joué dans deux films de Gance, Le fou de la falaise et L'héroïsme de Paddy. Il le veut, ce rôle Dieudonné. Il le veut de toutes ses forces. Mais Gans n'est pas tout à fait convaincu. Alors, pour forcer la chance, Dieudonné imagine une étrange mise en scène. Habillé en Bonaparte, il se présente en pleine nuit au château de Fontainebleau, où Gans travaille à son scénario. Il demande au gardien, visiblement atterré, de prévenir le metteur en scène. Le vieil homme obéit et, bégayant, annonce à Gans que le fantôme de Napoléon se promène dans le salon. Intrigué, Gans s'y rend et il trouve, au milieu des décors d'époque, éclairé par des bougies fantomatiques, un Bonaparte stupéfiant de vraisemblance. Le rôle est adjugé.
Et oui, c'est bien Drucker qui prête là sa voix au documentaire sur le Napoléon d'Abel Gans, réalisé par Nelly Kaplan en 85. En 27, ce film, long mais d'une modernité hallucinante, devient vite culte. Mais Gans ne pourra monter à bien son projet de 8 films sur Napoléon. En 60, il tourne Austerlitz avec, en Napoléon, tenez, devinez, excusez le son, même après traitement, il semble vraiment d'époque.
J'ai des nouvelles. Par un agent secret qui a traversé toute l'Espagne et toute la France sans prendre une heure de repos. L'escadre de l'amiral Villeneuve s'est embossée à Cadix où elle est restée ancrée par peur de Nelson. Qu'est-ce que vous dites, Daru? Ce genre en foutre de Villeneuve est à Cadix! Où il va être bloqué naturellement. Quelle marine! Quel amiral! Ça n'a pas de nom. Misérable! Il sacrifierait tout pourvu qu'il sauve sa peau! Mais qu'est-ce que je peux bien foutre avec des choses comme ça? 2 ans de préparatifs! 150 000 hommes immobilisés! Tous ces sacrifices! Inutiles! Un Cadix! Quand on le guette à la lunette! Un poulet!
C'est Pierre Mondy qui tient pour Austerlitz d'Abel Gans à Napoléon, ma foi, fort convaincant. Un poulet, Frédéric Lévineau pour le magazine Le Point.
En temps ordinaire, l'empereur détestait perdre son temps à table. Les repas quotidiens étaient expédiés en 10 minutes chrono. Les dîners officiels, c'était 30 minutes au grand maximum. Dans l'intimité, il ne s'embarrassait d'aucune manière. Il délaissait les couverts pour se servir de ses doigts et pouvait commencer par le dessert. De son enfance, l'empereur avait conservé le goût des pâtes. Ah, les lasagnes de Mama Laetitia, avec beaucoup de parmesan surtout. Sa recette préférée a toujours été la timbale de macaroni à la milanaise. Même dans les plaines enneigées de Russie, un fourgon le suivait avec tout le nécessaire pour en préparer. L'empereur était un cauchemar pour ses cuisiniers, qui devaient se tenir prêts à le servir immédiatement à toute heure du jour. On rapporte qu'une fois, 23 poulets se succédèrent dans le four avant qu'il ne passât à table.
Votre Majesté, la volaille qui vient de Bresse, façon maringo.
Absolument, les écrevisses.
Avec les écrevisses, farcies avec les écrevisses.
C'est magnifique. Et puis ça me rappelle effectivement Maringo, 1800. La grande bataille.
Une bataille qui accouche d'un poulet. Le 14 juin 1800, à la tête de l'armée française, le général Bonaparte évite de justesse la déroute. Quand la victoire est acquise, il est pris d'une énorme fringale. À la hâte, son cuisinier du nom rassemble une poulette, 6 écrevisses, 4 tomates et 3 œufs. Il fait cuire le tout dans la seule poêle à sa disposition. Le général se régale. Le poulet sauté à la maringo est né. Le poulet est la viande de prédilection de l'empereur. Par défi, son officier de bouche lui fit, durant toute une année, préparer une recette de poulet différente chaque jour.
Maringo 1800, Waterloo 1815. Bataille qui ne s'est peut-être pas passée comme on l'a dit.
Ah, il est marrant. On fait le forcing, les Sprontaro. Nous, on se crève, on les coupe le vent, on fait tout le boulot. Et saisi, il arrive à l'étape, frais comme un gardon. Excuse-moi. Alors, à lui le maillot jaune, à lui les bouquets de fleurs, à lui les bibis, à lui les photos. Pardon.
Tais-toi quand Brandy, dit tout le savant, sinon bon contrat, hein. Alors ferme-la et pédale.
Eh, on les prend, Napo, on peut les avoir comme on veut.
Non. On peut pas partir sans les ordres de Talleyrand.
Oh, j'en ai marre, hein. Moi, j'en ai marre des directeurs sportifs, hein. Sprite dans les bagnoles en fin de course et il faut attendre leur permission alors qu'on a la victoire dans la pogne. Napo, Napo, je t'ai dit qu'on peut se les rattraper, les Anglais.
À combien on est de Waterloo?
2 kilomètres.
Bon, bah tant pis pour Talleyrand, on fonce. Masséna,
ouais.
Passe-moi ton bidon.
Tu bois trop, Murat, ça va te couper les pattes.
Alors écoutez-moi, les petits. Arrivé à Waterloo, vous vous mettez en carré, vous faites le mur. Et moi, je vous lâche à 200 mètres de la ligne.
Oh, un cadeau,
qu'est-ce que quoi, ça vous plaît pas, quoi? Vous abandonnez mes primes, non? Alors, si je gagne à Waterloo, on se farcit le classement par équipe, vous serez bien content.
Oh, et pas le contraire, mais nous aussi, on aimerait bien avoir le maillot de temps en temps.
Il n'y a rien qu'une fois, tiens.
Chacun son tour, oui.
Je peux pas me permettre de prendre des risques. J'ai encore le tour de l'île d'Elbe à me farcir. Plus les 6 jours de Wagram et le critérium de la Bérésina. Il faut que je remporte le tout si je veux avoir le championnat d'Europe par points. Alors, rien à dire? Masséna, passe-moi ton bidon, j'ai le coup de pompe.
Ah, écrase.
Ça y est, les gars! Waterloo, on arrive!
Heureusement qu'on a Jean-Yann et ses généraux, Jacques Martin et Paul Mercet, en première ligne pour rétablir la vérité en 64.
Il est lugubrement simple. Je voudrais trouver de la hauteur chez lui. J'ai cherché. On le verrait un peu moins petit. J'ai rien trouvé. Il n'a aucune curiosité, même pas curiosité scientifique. C'est quelqu'un qui ne regarde pas la nature. Il a la chance d'être à Sainte-Hélène. Regardez ce que Victor Hugo a tiré du contact de la mer. Ça a transformé Victor Hugo de vivre dans cet exil maritime. Lui, jamais. Ça n'intéresse pas. Rien de la nature, ni les herbes, ni les oiseaux, absolument rien. C'est un homme qui est terriblement bas de plafond.
Napoléon est mort à Sainte-Hélène. À Sainte-Hélène est mort Napoléon. On l'a trouvé sur le dos d'une baleine, en train de sucer les fils de son caleçon.
Tolstoï disait, c'est surtout des gens qui ont été servis par la chance. Bonaparte, c'est terriblement ça. C'est quelqu'un, en effet, que je crois, médiocre mais extrêmement intelligent, et qui a été prodigieusement servi par les circonstances. Toute la carrière de ce général politicien repose sur le fait qu'il a été choisi comme instrument par un groupe de financiers politiciens.
De l'Empire, nous avons renoncé au pire, et de l'Empereur, nous avons embelli le meilleur.
Arrivons-en à sa mort. Il s'était mis à grossir de plus en plus. Et ce tonneau qui était devenu croque-mitaine avait essayé en janvier 1821 pour se faire maigrir du cheval à bascule. Un, deux. Et puis ça le tuait, ça le faisait trop transpirer. Alors il a fait 3 séances et puis il s'est arrêté. Puis les souffrances commencent à venir très sérieusement au printemps 1821. Alors là, autant cet homme est dénué de capacité d'apitoiement sur autrui, il déborde de trésors d'apitoiement sur lui-même. Je suis un pauvre homme, je suis malade. Vous n'avez jamais été malade, vous, Bertrand. Vous savez pas ce que c'est. D'où Chateaubriand, tuer les autres, écrit-il apparemment, ça n'apprend pas à mourir.
Napoléon est mort à Sainte-Hélène, son fils Léon lui a crevé le bidon. On l'a retrouvé assis sur une baleine, en train de bouffer les fils de son caleçon.
Vous savez combien j'aime Victor Hugo. Alors quand Hugo, fils de général d'Empire, compare le neveu Napoléon III à son oncle, ça donne ça. Le pont d'Arcole par Popoc 56.
Il passait les monts et les plaines, tenant en main la palme, la foudre et les rênes du genre humain. Il était ivre de sa gloire qui retentit.
Voici du sang à court, viens boire. Petit.
On propose plutôt de décentrer le regard et de peut-être décrire l'histoire pas à partir de Napoléon, mais peut-être à partir d'autres personnages qui vivent au temps de Napoléon et qui disent des choses différentes, qui notamment se battent pour la liberté et l'égalité, quand même des principes qui s'inscriront au fronton de la République française et qui sont, eux, poursuivis par Napoléon et chassés par Napoléon. Et donc ce décentrement nous aiderait peut-être à être moins fixés sur la vie des grands hommes.
Quand il tombe à lâchant le monde, l'immense mer ouvrit à sa chute profonde son gouffre amer. Il y plongea sinistre archange et s'engloutit.
Toi, tu te noieras dans la fange, petit petit.
Un Ainsi se termine presque cette 9e visite de la saison 7 du Panthéon des Cousus sur Radio Alpa, diffusion les samedis et lundis à midi et mardi à 17h30, podcast disponible sur radioalpa.com et les principales plateformes de réécoute. Mais ne quitte pas sans musique, et sans cet hymne à l'ultime défaite militaire napoléonienne, qui plus est par des sujets suédois du royaume de Bernadotte, du moins à l'origine. Car cela dit, je nous ai déniché une version tout sauf disco, entonnée par l'anglish candidat à l'Eurovision, Sam Ryder, le 12 mai 2022 dans l'émission The Zoe Ball Breakfast Show sur la BBC 2. Bonne semaine à toutes et tous, à l'écoute de Radio Alpa.
History book on the shelf, it's always repeating itself. Waterloo, I was defeated, you won the war. Waterloo, promised to love you forevermore. Well, Waterloo, couldn't escape if I to Waterloo, knowing my fate is to be with you. My, I tried to hold you back, but you were stronger. And how could I ever refuse? It feels like I win when I lose. Waterloo, I was defeated, you won the war. Waterloo, promised to love you forevermore. Let it know, Waterloo, I couldn't escape. If I wanted to, Waterloo, knowing my fate is to be with you. Waterloo, knowing my fate is to be with you.
Il y a un ami qui m'a envoyé un mot.
Qui ça?
Cambronne. Je sais ce qu'il vous a dit.
Oh merde,
je m'en doutais.